liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous reprenons l'émission de rentrée 2025, créée par les Gilets jaunes. Cette émission a évolué pour s'affirmer comme un espace de parole ouvert à tout citoyen et toute citoyenne habitant sur notre territoire et ayant quelque chose à dire ou des initiatives à partager concernant notre vie commune ou nos biens communs. Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste et plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail, paroledecitoyens@frequence7.net, en minuscule singulier, tout à l'attaché. Nous lisons les mails que vous nous adressez, bien sûr. Alors aujourd'hui, je suis Edwige, est absente, et Anne aussi, la rentrée est très occupée pour tout le monde, donc je serai seule pour accueillir François et Monique. Au menu du jour, comme à notre habitude, une entrée, un plat de résistance et un dessert. En entrée, les citoyens en action sur notre territoire. En plat de résistance, quand des citoyens ardéchois nous racontent Mayotte, ce sera donc François et Monique. Et nous terminerons en solidarité avec le peuple maoré, victime à la fois du cyclone et des politiques publiques, en partageant avec vous une recette de cette île. Surtout prévoyez papier et crayon comme d'habitude. Et bon appétit! Alors nous allons démarrer l'entrée par l'info sur les choses qui ont concerné les citoyens sur notre territoire dans les semaines en cours. Bien sûr, comme d'habitude, on a la guerre au Moyen-Orient qui se poursuit. On commence à s'enlacer de répéter tout le temps les mêmes choses. La situation au Moyen-Orient a évolué depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, puisque on a vu des choses qui se sont passées en Syrie. Et ça a évolué vers ce qu'on suppose ne pouvoir être pire pour les Syriens et peut-être un espoir de mieux vivre pour elles et eux, on leur souhaite en tout cas. Pendant que nos médias ergotent sur la taille des barbes des nouveaux dirigeants en Syrie, le régime sioniste israélien poursuit sans relâche son action génocidaire à Gaza et en Cisjordanie. C'est un peuple entier, parmi les peuples les plus anciens qui ont le plus apporté à nos civilisations humaines, qui est massacré dans l'indifférence générale. Nous serons tous comptables de cette indifférence et de l'inaction devant les tribunaux de l'histoire. C'est pourquoi, samedi dernier et samedi prochain, comme tous les samedis depuis octobre 2023, des Ardéchois, comme d'autres partout dans le monde, se retrouvent en rassemblement de protestation et en solidarité avec les peuples victimes à l'Agora à 11h à Aubenas. Donc samedi prochain à 11h, comme tous les samedis. Et avant de parler des points suivants, nous avons une introduction musicale avec une chanteuse qui est en fait une chanteuse franco-arménienne, et qui chante en arménien aussi parfois, et qui donc va nous interpréter, donc c'est Lada Niva, par Sara Iman.
Nu cred că ai putea dormi, nici pe alta ai iubi.
Alors, nous allons parler du Festival du film paysan de cette année, puisque c'est quelque chose qui se passe déjà l'année dernière. Et dès demain, vendredi 10 et jusqu'au 19 janvier, aura lieu le Festival du film paysan 2025, organisé par la Confédération paysanne. Cet événement annuel remporte un succès de plus en plus grand d'année en année, et c'est l'occasion de passer des moments intéressants et conviviaux autour de la condition paysanne, de notre alimentation, de l'utilisation des terres, etc. Alors, quelques moments forts qui sont prévus sur notre territoire du Sud-Ardèche. Samedi, donc, qui vient, à 20h au Vence, projection du film Demain la Vallée. Dimanche 12 à 14h au Béage et lundi 13 à 20h à Rions, Tu nourriras le monde, avec la présence de Laurence Marandola, porte-parole nationale au Béage. Jeudi 16 à 20h au Navire à Aubenas, Pâques, entendez-vous nos campagnes. Et vendredi 17 à 19h à Lussas, Algues Vertes. Et Pour terminer sur notre territoire, samedi 18 à 14h à Lanars, éleveur d'horizon. Vous remarquerez que en montagne, c'est plutôt l'après-midi, pour éviter les soucis en cette saison. Ce qui nous intéresse particulièrement, nous, dans ce festival, c'est que ces rencontres peuvent aussi être l'occasion pour les citoyens que nous sommes d'échanger avec les producteurs locaux et pourquoi pas réfléchir ensemble, avoir des projets communs pour notre territoire. Il est bien évident que ce qui est produit sur notre territoire nous concerne, c'est notre alimentation actuelle et à venir dans les années futures. De ce point de vue, il existe une association qui le permet, qui s'appelle les Amis de la Confédération Paysanne et qui sera présente lors de ces soirées, à laquelle tout citoyen qui est soucieux de l'avenir de l'utilisation des terres agricoles peut adhérer pour soutenir des démarches communes. Voilà, donc ça c'est pour les actions diverses et on va passer à notre plat de résistance quand des citoyens ardéchois nous racontent Mayotte avec donc François et Monique. Et pour introduire ce moment particulier, nous avons une berceuse de B Junior Mamie pendant quelques secondes. Merci Sylvain. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous François et Monique, aujourd'hui retraités en Sud-Ardèche, mais qui ont terminé leur vie professionnelle pendant 7 ans à Mayotte. Alors c'est important pour nous de pouvoir apporter ce témoignage de vécu sur place. Au vu de leurs activités, ils ont pu connaître, comprendre, analyser, ressentir beaucoup de choses de la réalité mahoraise. Et ils ont la gentillesse de nous en faire profiter, à nous qui regardons en ce moment atterrés ce qui se passe là-bas. Ils ont beaucoup de choses à nous dire, nous en ferons sûrement au moins 2 émissions. Pour aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder quelques premiers points qui nous permettent déjà de comprendre globalement ce qui se passe. Dans un premier temps, on va peut-être commencer par le début. François et Monique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous êtes allés faire là-bas? Quand? Comment? Pourquoi vous avez vécu à Mayotte et à Mayotte? Et qu'est-ce que vous y faisiez au quotidien, quoi?
Alors, je vais prendre la parole en premier. Je suis... Je suis médecin et j'avais une activité professionnelle en métropole qui avait lien avec la transfusion sanguine. Je me suis beaucoup investie dans cette activité parce que elle avait une notion de solidarité des gens en bonne santé avec les gens malades. Et c'est dans cette activité, je me suis complètement épanouie pendant 25 à 30 ans. Et au bout de 30 ans, la structure de l'entreprise s'est modifiée puisque le caractère solidaire qui portait en fait cette activité a été remplacé par une industrialisation, par une financiarisation. Et du coup, je n'ai plus retrouvé dans le travail qui m'était confié les motivations qui m'avaient permis d'y contribuer pendant aussi longtemps. J'ai donc recherché qu'est-ce que je savais faire, qu'est-ce que je pouvais faire qui entre dans mes aspirations. Et je me suis donc tournée, puisque je ne sais rien faire d'autre qu'être médecin, je me suis donc tournée vers la médecine humanitaire et j'ai recherché quel pays, quelle zone pourrait correspondre à mes compétences. Et avec ces recherches, je suis arrivée sur Mayotte, qui était pour moi une île complètement perdue. Je ne savais même pas où c'était. Une toute petite île entre l'Afrique du Sud et Madagascar. Et j'avais l'impression, au vu de mes lectures, que c'était une page blanche qui avait encore son avenir à écrire. Et c'est pour ça qu'avec François, nous avons décidé de tenter de faire quelque chose là-bas que je ne pouvais plus faire en métropole.
Alors, vous m'avez raconté tout à l'heure en anecdote, je crois que c'est François qui le racontait, que quand tu t'es mise à rechercher des opportunités, des endroits où ils recherchaient des médecins en humanitaire, vous avez pris la liste par ordre alphabétique des pays, et le premier, en fait, le premier choix que tu as fait, c'est le Mali. Et sauf que ce choix est arrivé au moment où la guerre a démarré au Mali.
Exactement. Et mes compétences, qui étaient des compétences de médecin généraliste, transfuseur, coagulationniste, je ne voyais pas comment je pouvais les mettre au profit de la population dans un pays en guerre. Mmh. Et mon expérience personnelle ne me permettait pas de savoir si je représenterais un poids pour la population que je souhaitais venir aider ou si c'était effectivement quelque chose que j'étais capable de faire. Donc j'ai choisi la médecine générale qui était plus dans mes cordes en fait.
D'accord. Et donc du coup, le mot après, toujours par ordre alphabétique, c'était plus Mali, c'est après c'est Mayotte. Hein. Donc tu as atterri à Mayotte et vous avez atterri à Mayotte. Tout à fait par hasard, c'était pas un plan construit. Mais donc du coup, bien sûr, comme toute personne qui part travailler à l'étranger de façon durable et qui plus est avec des êtres humains, on se renseigne. On s'informe quand même sur tout ça. Donc ça, vous nous en parlerez. Mais du coup, quand tu es parti là-bas exercer, c'était pour exercer dans quel type de structure et à quels endroits, dans quel cadre?
Alors quand je suis partie là-bas. Je suis partie dans un premier temps pour travailler dans un dispensaire parce qu'à Mayotte, à l'époque en tout cas, la médecine générale libérale n'existait presque pas. Il y avait 7 médecins libéraux sur Mayotte et par contre, la majeure partie des gens venaient se faire soigner dans des dispensaires. Alors, les choses étaient organisées de cette façon-là. Il y a un hôpital central qui s'appelle le centre hospitalier de Mamoudzou. De ce centre hospitalier le laboratoire, la radiologie, la chirurgie, enfin, c'est une structure hospitalière et la maternité, donc vous avez déjà dû entendre beaucoup parler. Et à ce centre hospitalier qui est situé à Mamoudzou, sont rattachés ce qu'on appelle des centres de référence. Dans ma recherche, en fait, j'ai demandé à quel centre de référence ils souhaitaient me rattacher, et ils m'ont désigné un des centres de référence qui se trouve entre le nord et le sud, donc au centre de l'île, qui s'appelle Kahani. Et à ce centre de référence sont rattachés des dispensaires qui se trouvaient déjà à l'époque dans la majeure partie des villes de petite importance qui maillaient le territoire. À l'époque où on est arrivé, il y avait un réseau de dispensaires qui était énorme, en fait, qui couvrait la totalité de l'île. Les gens n'avaient pas de moyens de déplacement autonomes, ils n'avaient pas de véhicule, ils n'avaient pas de vélo, ils n'avaient pas de mobylette, et ils se déplaçaient d'un point à un autre à pied. Et c'est donc l'hôpital et les soins qui venaient à proximité de la population, le plus proche possible de la population, et non pas la population qui se déplaçait, parce qu'ils n'avaient pas de moyens de transport, vers des centres hospitaliers ou des dispensaires qui auraient été éloignés de leur lieu de vie.
C'est presque avant-gardiste par rapport à ce qu'on va connaître chez nous en métropole, du coup, puisque avec la désertification médicale de la médecine libérale, on est en train de demander aux hôpitaux français de créer des centres de santé au plus près de la population. Maintenant, enfin, on revient à ce genre de démarche de dispensaire qui existait donc visiblement de façon très répandue à Mayotte, alors que nous, on les a perdus, les dispensaires, en France.
Alors, en France, à l'époque où j'ai fait mes études, il y a un certain nombre d'années...
On a dû faire des études à peu près au même moment, il y en avait encore.
Il y avait des dispensaires, mais ce n'étaient pas des dispensaires de médecine générale, c'était des dispensaires spécialisés. Il y avait le dispensaire pour la tuberculose, le dispensaire pour la syphilis, enfin en tout cas dans la ville où j'habitais, c'était comme ça. il n'y avait pas de dispensaire de médecine générale. Et à Mayotte, ce qui était important quand on est arrivé, en tout cas, c'est que la majeure partie tous les soins étaient gratuits pour tous les gens disposant d'une carte vitale. Il y avait des cartes vitales qui étaient éditées sur Mayotte. Et les étrangers, avec papier, sans papier, enfin tous les étrangers qui n'avaient pas de carte vitale, étaient soignés moyennant 10 euros pour une séquence de soins. C'est-à-dire que ça faisait 10 euros pour tous les trois mois pour une maladie chronique, avec la consultation, les médicaments, la radiologie, la biologie, enfin tout était pris, c'était du 100% pris en charge par les structures. Et pour les maladies aiguës, c'était 10 euros pour, par exemple, une fracture de jambe, c'était 10 euros pour le diagnostic de la fracture, la radiologie, la mise du plâtre, le changement de plâtre, enfin, jusqu'à ce que la personne n'ait plus besoin de soins, elle était prise en charge et soignée, sans qu'on lui demande autre chose que de donner son nom à l'arrivée.
Donc ça, c'est, enfin, comment ça marche, hein, on se rend compte que c'est pas pareil qu'en métropole, et je pense qu'on pourra y revenir plus tard, peut-être la prochaine émission dans le détail, pas seulement sur la santé d'ailleurs, hein, sur globalement quelles sont les différences entre ce qui se passe dans les départements d'outre-mer comme Mayotte, et parfois souvent ailleurs, et puis notre statut à nous, alors que ce sont des départements. On pourra comparer l'Ardèche et Mayotte et on verra beaucoup de différences. Quand vous êtes parti, donc peut-être rapidement dire que François, toi tu avais ta propre activité, mais en fait tu étais entrepreneur. Donc
J'avais une petite société où on faisait de la programmation pour des sites internet.
Voilà, donc toi, tu as pu déménager ton activité sans souci et, voilà, et poursuivre de cette façon. L'autre question que je voulais vous poser, c'est, bon, on le disait tout à l'heure, comme tout voyageur et non pas touriste qui va dans un endroit qu'il ne connaît pas, vous vous êtes informé avant d'y aller, et puis sur place, vous avez appris aussi des choses, certainement, vous avez posé des questions. Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'histoire? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent, mais en fait, quand est-ce que c'est devenu un département français? Pourquoi, comment? Ils ont voté pour? Qu'est-ce que c'était cette histoire? Et puis maintenant, il y en a qui s'en plaignent, il y en a qui... Voilà. Quelle est la question? Ce qui était très surprenant, moi, qui m'a beaucoup surprise, en tout cas, quand on voit qu'il y a un cyclone de cette nature, avec les dégâts que ça produit, ça aurait été un séisme, c'est pareil. Je regardais une carte, je ne sais pas combien il y a de kilomètres avec les Comores, il n'y a rien. Avec l'Afrique, il n'y a rien, c'est tout près, quoi. Et que ce n'est pas là qu'on est allé chercher les secours, qu'on est allé les chercher à l'autre bout de la Terre, et pour les amener d'abord à La Réunion, et puis ensuite... Enfin, il y a quelque chose qui est peu compréhensible pour le Pékin moyen que je suis. Donc, peut-être que l'histoire peut nous expliquer ça, que vous pouvez nous en dire un petit peu des choses.
Eh bien, je vais essayer de ne pas être trop lent. Parce que l'histoire de Mayotte, elle est un peu complexe quand même. En fait, les différentes îles des Comores, donc il y a quatre îles. Mayotte, Anjouan, Moéli et Grand Comore. Grand Comore étant l'île qui a la capitale de la République des Comores, qui est Moroni. Avant, je dirais, la colonisation française, et même peut-être après d'ailleurs, il y a eu très très souvent des conflits entre les différentes îles. À tel point que au milieu du 19e à peu près, il y a certaines îles qui se sont rapprochées en fait des Anglais. Et à Mayotte, le sultan de l'époque, dont je ne me souviens plus exactement le nom. Adrien Souli, oui, merci. c'est dit que si les autres îles se rapprochaient des Français, eux, il fallait qu'ils aillent chercher se rapprocher des Anglais, eux, il fallait qu'ils aillent chercher les ennemis des Anglais, et donc les Français. Et ils ont signé un accord dans lequel Mayotte devenait sous protection française, et lui avait un certain nombre d'avantages, que je ne sais pas trop lesquels. C'est comme ça que Mayotte est en fait devenue une colonie française. Ce qui n'empêche qu'il y a eu des conflits avec les autres îles qui ont continué. Alors là, je passe assez rapidement. dans les années 60-70, c'est la période où commence à y avoir un mécanisme de décolonisation dans toutes les colonies. Partout, hein, oui, voilà. Et la France rentre également dans ce mécanisme-là et organise un référendum en 1974. Le résultat du référendum, c'est que globalement sur l'ensemble des Comores, puisque géographiquement c'est une seule entité, le résultat est très majoritairement pour devenir indépendant. Par contre, sur l'île de Mayotte seule, c'est l'inverse. Alors, finalement, la France va, on va dire, pas tout à fait respecter de niveau global, va en fait tenter de garder Mayotte et de rendre indépendant le reste. Du coup, les trois autres îles déclarent unilatéralement leur indépendance, et la France organise un deuxième référendum sur Mayotte, qui donne un résultat écrasant pour rester française. C'est comme ça que Mayotte est restée française et que les trois autres îles sont devenues indépendantes. Alors par contre, les trois autres îles depuis, alors plus elles ont abandonné, mais chaque année déposer un recours auprès de l'ONU, parce que l'ONU avait considéré que le référendum français était, alors dans le texte exact, c'est écrit nul et non avenu. Donc en gros illégal, quoi. Les plaintes des Comores ont chaque fois été recevables, je crois 39 fois, et il s'est jamais rien passé parce que la France a un droit de veto au Conseil
de sécurité.
Et que pour qu'il se passe quelque chose, il aurait fallu une intervention de l'ONU, et c'était pas possible avec le droit de veto de la France.
Ça ressemble un peu à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, là, non ? Le processus, ils sont en train de nous refaire la même sur la Nouvelle-Calédonie.
Je sais pas, peut-être.
Ça ressemble.
Je sais pas. J'ai pas réfléchi, essayer de faire le parallèle. Oui. Mais certainement lié à des dépressions et en l'occurrence certainement l'ONU. À l'issue du deuxième référendum, la France avait admis une libre circulation sur le territoire de Mayotte des gens de nationalité comorienne. Donc pendant un certain temps, des gens comoriens pouvaient venir à Mayotte, pouvaient éventuellement travailler ou faire du commerce, et éventuellement retourner chez eux. Le niveau de vie entre Mayotte et les Comores, le niveau de vie de Mayotte a cru de manière importante, parce que de toute façon, l'écart de niveau de vie initialement entre la métropole et Mayotte est absolument colossal, et que ne serait-ce que la présence de l'administration française, de fait de l'installation de systèmes comme la poste, l'électricité, de construire des routes, etc., fait que ça a créé un développement qui n'existait pas avant, en fait, tout simplement. Et donc Mayotte devenait, par rapport aux Comores, de plus en plus attractive. Ce qui n'était peut-être pas forcément un problème, parce que du coup, il y avait beaucoup de Comoriens qui venaient travailler à Mayotte, qui donc participaient au développement économique de Mayotte, et étaient payés pour ça, et retournaient chez eux. Et en gros, quelqu'un qui venait travailler 2 ou 3 mois dans l'année à Mayotte, ça lui permettait quasiment de vivre toute l'année une fois qu'il était retourné aux Comores. Ça a perduré jusqu'en 1995. Et en 1995, la France a inventé ce qu'on appelle le visa baladure. C'est-à-dire que pour pouvoir venir à Mayotte maintenant, il faut une demande de visa. Mais c'est pas tout. Quelqu'un qui obtient un visa ne peut pas quitter Mayotte. Et donc là, on a inventé la notion de sans-papiers et de Comoriens sans-papiers, etc., qui depuis n'a fait que s'amplifier, parce que de toute façon, la différence de niveau de vie ne fait que croître.
Alors merci François pour cette première explication, on y reviendra la prochaine fois. On arrive déjà au terme de notre émission, mais je savais que sur Mayotte on allait en avoir pour je ne sais pas combien de temps, donc tout ce qu'on a prévu, on ne le fera pas. peut-être que, je ne sais pas, soit on conclut direct, soit une petite musique avant, c'est Sylvain qui décide et nous on vous dit au revoir, à la prochaine fois. Mazao wakeza ufete
wasia bora riambio wana watisitiri rahasi papa kazawala mwanangu sini hozero.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.